dans l'Ouest, ils appellent une petite orchidée de couleur rose ou violette de Pentecôte. Alors, Pentecôte avec un petit P. Hein. Nous, on célèbre le dimanche de la Pentecôte. Donc, avec un grand P, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est... ça a à voir avec la Bible. Le dimanche de la Pentecôte, ça a à voir avec la Bible. C'est la Pentecôte dont nous parle la parole de Dieu. Par curiosité, j'ai jeté un coup d'œil dans un dictionnaire pour voir ce qu'il disait de la Pentecôte. Et j'ai trouvé cette réponse. C'est un jour marqué par l'acte de naissance de deux religions. Les Juifs commémorent le jour où Moïse reçoit les 10 commandements. Et les chrétiens, celui où les disciples de Jésus reçoivent l'Esprit Saint qui les pousse à annoncer que le Christ est vivant. J'ai trouvé intéressant parce qu'il y a du vrai là-dedans, n'est-ce pas ? Une réponse un peu laïque de la Pentecôte. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette réponse nous rappelle qu'effectivement, cette fête n'est pas d'origine chrétienne, elle est d'origine juive. Elle était au départ d'ordre agricole avant d'évoluer vers la commémoration de la loi de Dieu donnée au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse. Et pour nous, chrétiens, elle a une signification particulière, car ce fut le jour de la Pentecôte juive, donc 50 jours après Pâques, d'ailleurs le mot grec signifie 50e, donc si on ajoute jour, c'est 50e jour après Pâques, alors que tout le monde célébrait Pâques à Jérusalem, les disciples de Jésus-Christ ont reçu donc l'Esprit Saint que Jésus avait promis avant de monter au ciel, avant l'ascension. Et vous connaissez le chapitre 2 des Actes des Apôtres, n'est-ce pas, qui nous raconte donc cet événement, n'est-ce pas, cet événement à Jérusalem, comment cela s'est produit, notamment la conversion de beaucoup de monde à l'Évangile ce jour-là, grâce à l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a utilisé la prédication de l'apôtre Pierre et il a touché beaucoup de personnes et ces personnes se sont converties. Et se sont jointes donc aux disciples, à l'Église naissante, et nous dit le texte, à l'enseignement des apôtres. Ceux qui acceptèrent la parole prêchée par Pierre ont été baptisés, nous dit le texte, et le nombre de disciples augmenta de 3000 personnes. Donc 3000 personnes qui ont reçu le Christ et qui se sont associées donc à l'Église naissante. Bref, ce jour-là marque la conversion donc de beaucoup de monde et marque la naissance de l'Église, la naissance, j'allais dire, officielle de l'Église de Jésus-Christ. Pour nous, chrétiens, Pentecôte est donc cette fête qui célèbre ces choses-là, le don du Saint-Esprit et la naissance de l'Église. Mais j'ai envie de dire davantage parce que le christianisme, la foi chrétienne, a déjà 2000 ans d'histoire, n'est-ce pas ? On n'est pas au tout début. 2000 ans d'histoire riche. Et après cette Pentecôte de Jérusalem, les chrétiens ont reçu donc le Saint-Esprit, mais ils ont reçu aussi par écrit les enseignements que les apôtres et d'autres disciples nous ont transmis, nous ont laissés, que nous avons dans le Nouveau Testament, alors qu'eux, à l'époque, ils n'avaient que l'Ancien Testament. Et ils nous ont transmis donc l'enseignement du Christ et leurs expériences vécues au milieu d'eux, dans leurs églises respectives. Donc, à partir de cela, nous pouvons affirmer que la Pentecôte nous rappelle non seulement l'événement du début, mais aussi le ministère complet du Saint-Esprit dans nos vies et dans nos cœurs. Le Saint-Esprit qui réalise, donc, on l'a vu, le salut des individus, qui les éclaire, qui les accompagne dans tous les aspects de leur vie, le Saint-Esprit qui réalise l'Église et lui donne tous les outils nécessaires pour que celle-ci accomplisse le plus efficacement possible son œuvre, son ministère dans le monde. Aujourd'hui, nous pouvons donc célébrer le don du Saint-Esprit dans toute sa richesse, en rappelant qu'effectivement, comme l'avait dit Jésus, c'est vraiment avantageux de recevoir le Saint-Esprit en nous et de pouvoir compter sur lui en toutes choses. Cette thématique est tellement riche que nous ne pouvons voir l'espace d'une prédication que un ou deux ou trois aspects, pas plus. Or, pour la prédication de ce matin, je me suis concentré sur juste un petit passage du Nouveau Testament, la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20, où l'apôtre Paul dit ceci: « Ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui a été donné par Dieu, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous ? Vous ne vous appartenez donc point à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. » Frères et sœurs, j'ai déjà eu l'occasion de vous dire que pour moi, je fais la différence quand je lis la Bible entre un texte narratif qui nous raconte quelque chose, un événement qui s'est passé à un certain moment de l'histoire, de la vie des chrétiens, de l'Église. Donc, des textes qui sont formidables à lire puisqu'ils nous racontent ce qui s'est passé. Et il y a aussi des textes informatifs et normatifs. Normalement, quand on a une information de la Bible, souvent, très souvent, il y a aussi quelque chose qui nous est dit afin que nous puissions le vivre. Les textes narratifs donc racontent l'expérience vécue, mais ne disent pas de faire la même chose ou de chercher à vivre la même chose. Tout à l'heure, j'ai donné un exemple, mais là, je vais donner un autre exemple parce que je sais qu'il y a des personnes qui étaient là tout à l'heure. Alors, bon, tout à l'heure, je vais quand même leur dire, j'ai donné l'exemple de ce chapitre 4 des Actes des Apôtres où, après la libération des apôtres Pierre et Jean, qui ont été mis en prison à cause de l'annonce de l'Évangile, l'annonce publique dans la place publique, ils ont été menacés, on les a libérés, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés rejoindre la communauté des frères et des sœurs qui étaient ensemble, n'est-ce pas? Et le texte nous dit que quand ils sont arrivés, la communauté s'est mise... Je vais citer le texte pour ne pas me tromper. Ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble et se mirent à prier, donc. Très belle prière à partir du verset 25 que vous pouvez lire à la maison. C'est un texte narratif. Ils ont fait ça. Le texte ne donne pas d'autres détails. Comment cela s'est passé? Mais moi, ce que je remarque, c'est que leur prière a été retenue et nous a été transmise. Donc, moi, j'ai l'impression, en lisant ce texte, qu'il n'y a pas eu de cacophonie qui empêchait les autres d'écouter la prière. Or, aujourd'hui, il y a parfois des chrétiens qui pensent que la prière dans la communauté, si elle n'est pas faite avec cette cacophonie, n'est-ce pas, ce bruit de fond, même pas de fond, n'est plus une vraie prière. Moi, je ne rentre pas dans cette forme de pensée. Je pense qu'on peut même prier en silence, n'est-ce pas? Prier en silence, c'est possible. Mais ce que je veux retenir dans ce texte, c'est que cette prière a été entendue et en plus, elle a servi à édifier d'autres, n'est-ce pas? Servi à édifier d'autres. Donc, il ne s'agit pas de prier en élevant que tout le monde parle à la fois sans que personne ne s'entende, etc. Mais il s'agit de prier en disant des choses qu'on entend, afin que nous puissions dire Amen. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens dans le contexte de prière en langue, n'est-ce pas? Et il dit ceci: « Comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, des excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. » Et moi, j'ai beaucoup apprécié ça. L'autre n'est pas édifié. Donc, il faut que la prière serve aussi à édifier les autres, n'est-ce pas? Et nous avons dans la communauté des frères et sœurs dont les prières souvent apportent des choses qui nous édifient. Cela ne veut pas dire que les prières les plus simples, les plus terre à terre, ne sont pas nécessaires. Elles sont nécessaires. Dieu les entend. Mais voilà, il y a des prières qui édifient les autres. Or, le texte ce matin n'est pas un texte narratif, il est un texte affirmatif et normatif. C'est-à-dire qu'il a quelque chose à nous dire que nous devons savoir et que nous devons faire. D'abord, il nous informe que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tout le monde, est-ce que tous les chrétiens savent qu'ils sont le temple du Saint-Esprit ? En fait, chaque chrétien a besoin de le savoir. Et quand il le sait, il ne peut pas agir comme s'il ne le savait pas. Et c'est la parole de Dieu, inspirée par ce même Saint-Esprit, qui est Dieu, qui nous donne cette information que nous ne devons pas ignorer, comme, hélas, les chrétiens corinthiens semblaient l'ignorer, ce qui est triste. Et à cause de cela, ils agissaient de manière indigne du Seigneur et contraire à sa volonté. Un coup d'œil montre des choses terribles au sein de cette église, une église qui se vantait d'avoir tous les dons spirituels, d'être plus spirituelle que les autres, mais qui vivait de manière mondaine, car elle avait adopté la manière de penser du monde, la philosophie ambiante. Certains comportements en vogue dans la société ont trouvé place au sein de l'église, et l'église s'est habituée, plus personne ne disait rien. Le contexte immédiat de ce passage montre que les Corinthiens vivaient dans la débauche, dans l'immoralité, dans l'impudicité et dans d'autres choses que je ne vais pas mentionner, il faut lire toute la lettre. Leur philosophie en matière sexuelle pouvait être résumée dans cette phrase : l'épouse pour avoir des enfants et s'occuper de la maison et les prostituées pour tout le reste. Vous imaginez ? Des chrétiens qui fréquentent les prostituées. Et il semble que ce type de comportement qui s'est infiltré, qui s'est glissé au sein de l'Église, ne posait plus de problème à personne. Et ils croyaient même que c'était normal de vivre. Être chrétien, c'est au niveau de l'esprit. Être en liaison avec Dieu qui est esprit, mais mon corps, c'est autre chose. Pas d'importance, je peux faire ce que je veux. Et donc, avoir des relations sexuelles avec des prostituées, ça ne posait pas de problème à ces chrétiens. Le chapitre 5 dit même qu'en son sang, il y avait un cas d'inceste et personne ne disait rien. Aucune discipline au sein de cette église. Alors, on peut imaginer l'état de déchéance auquel l'église de Corinthe est arrivée. Mais il se vantait d'être spirituel, d'avoir tous les dons de l'esprit. L'apôtre Paul, dans sa lettre, et aujourd'hui, nos traductions habituelles parfois divergent un petit peu, parce que c'est difficile parfois de savoir ce que l'apôtre Paul dit lui-même et ce qu'il cite. Parce que dans les textes originaux, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de guillemets. On peut le savoir aujourd'hui grâce à d'autres textes qui nous montrent quelle était la manière de penser à l'époque des Corinthiens. Et donc l'apôtre Paul cite plusieurs slogans dans cette première lettre. Certains pensent que c'est lui qui le dit, mais ce n'est pas lui qui le dit, il le cite pour après appliquer ça à quelque chose de spirituel, de fort. Par exemple, il dit tout m'est permis. Ça, c'est ce que les Corinthiens disaient, hein, ce n'est pas lui. Il fallait mettre des guillemets. Mais l'apôtre Paul utilise ça pour dire oui, tout m'est permis, mais un autre slogan, les aliments sont pour le ventre et le ventre est pour les aliments. Mangeons et buvons, bourrons-nous de boissons et de nourriture, ce n'est pas un problème pour un chrétien. Un autre, n'importe quel péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Et d'autres slogans qu'on peut trouver dans cette lettre. Chez eux, c'était le fast-food et le fast-sex à fond la caisse. Pas de problème pour les chrétiens. Et l'apôtre Paul doit leur rappeler que les chrétiens, le chrétien, est le temple du Saint-Esprit. Et que même s'il est appelé à la liberté, cette vraie liberté qu'il a en Jésus-Christ, cette liberté ne lui est pas donnée pour faire n'importe quoi, n'est-ce pas ? Elle ne doit pas être un prétexte pour vivre dans la débauche, dans une vie dissolu dans la boue du péché. Au contraire. Donc la première affirmation, le premier enseignement de ce texte, c'est que le chrétien ne doit pas ignorer qu'il est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite à lui. Il a le privilège, ce grand privilège, d'avoir l'Esprit de Dieu en lui. Privilège, certes, mais aussi grande responsabilité, n'est-ce pas ? Grande responsabilité. Et en tant que temple du Saint-Esprit, il ne doit pas se laisser asservir, comme il dit, n'est-ce pas, par quoi que ce soit, c'est-à-dire se laisser dominer, tomber dans l'esclavage de je ne sais pas quoi, parce que cela entraîne des conséquences qui peuvent aboutir à la mort, des conséquences fâcheuses. Intéressant de voir les trois directions que l'apôtre Paul avance et qui doivent nous orienter, donc nous aussi, c'est pour nous aujourd'hui. La première, vous êtes le temple du Saint-Esprit, donc vous ne vous appartenez pas à vous-même, ça il faut le savoir, c'est pour nous. Deuxième, vous êtes le temple du Saint-Esprit car vous avez été racheté à grand prix. Ça, ça doit être toujours présent dans nos cœurs, n'est-ce pas ? Dans tout ce que nous faisons. Le Christ a payé un prix très très cher. Et enfin, la troisième, vous êtes le temple du Saint-Esprit, donc honorez Dieu dans vos corps. C'est un impératif, c'est un texte normatif. Honorez, nous sommes appelés à honorer Dieu, non seulement au niveau de notre esprit, mais au niveau de notre corps, l'être tout entier. Alors cette affirmation, vous ne vous appartenez pas à vous-même, choque sans doute beaucoup de monde aujourd'hui dans la société. Le slogan d'habitude, c'est « ni Dieu ni maître », n'est-ce pas ? Je suis allé voir un petit peu... Si c'était mai 68 que cela a commencé, bon, les profs doivent savoir, mais moi je ne suis pas prof, donc voilà, je suis allé bosser un petit peu. Et j'ai trouvé que déjà en 1870, le premier qui semble avoir émis cette idée de ni plus Dieu ni plus de maître, c'était un militant socialiste parisien qui s'appelait Étienne Susini. Et d'ailleurs... Paul Claudel a répliqué d'une forme formidable lorsqu'il a dit « Choisir Dieu est le seul moyen radical de n'avoir aucun maître. » Choisir Dieu, c'est le seul moyen radical de n'avoir aucun maître. Or, en naissant de nouveau, pour utiliser le langage de Jésus dans l'évangile de Jean, il faut naître de nouveau. Ou encore, comme Jésus l'a aussi dit à Nicodème, en naissant d'eau et d'esprit, c'est-à-dire lorsque l'Esprit de Dieu nous convainc de péché, de justice et du jugement, lorsqu'on devient enfant du Seigneur, disciple du Christ, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Il nous unit étroitement à Jésus-Christ. Nous changeons de maître et nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes ni à aucun autre, mais à celui qui a tout fait pour nous greffer à lui, c'est-à-dire... Jésus-Christ. Nous devenons membres de son corps, le corps de Christ et le Saint-Esprit. C'est lui qui assure ce lien entre nous et notre Sauveur et Seigneur. Vous connaissez cette expression du Nouveau Testament qui apparaît des dizaines, peut-être même des centaines de fois, en tout cas des dizaines de fois, en Christ. Le chrétien, c'est lui qui est en Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui assure cette union avec le Christ. Comme un arbre est formé d'un tronc et de branches, les branches sont attachées au tronc, mais elles ne peuvent demeurer sur le tronc que si la sève passe du tronc en elles. Si la sève ne passe pas, les branches sèchent et meurent. Or, le tronc, c'est qui ? C'est le Christ. Les branches, c'est nous, ses disciples. Et la sève, c'est le Saint-Esprit. Ainsi, le Saint-Esprit, après avoir opéré donc, ce changement, ce bouleversement dans notre vie, il reste avec nous, il ne nous abandonne pas, il habite en nous, il fait de nous son temple. C'est uniquement par lui que le chrétien peut vivre en communion avec Jésus-Christ et le glorifier dans sa vie. Alors, l'autre conviction forte exprimée par l'apôtre Paul, vous avez été rachetés à grand prix. C'est une image qu'il utilise parce qu'à l'époque, il y avait des esclaves, il y avait le marché des esclaves qui étaient vendus sur les marchés et qui changeaient, pouvaient changer de maître. L'apôtre Paul emploie donc cette image de l'achat et du rachat. Avant que le Christ nous rachète, nous appartenions à notre propriétaire. Et la parole de Dieu nous fait savoir que l'être humain est soit la propriété du péché, du mal, de la mort, ou pour le dire de manière plus courte, de Satan, l'ennemi de Dieu et notre ennemi, ou alors de la justice et de la vie, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Il n'y a que ces deux possibilités. Mais à partir du moment où le Christ entre dans notre vie grâce à l'œuvre du Saint-Esprit en nous, qui a opéré donc cette nouvelle naissance, nous avons changé de propriétaire. Nous avons changé de propriétaire, nous sommes maintenant au Christ. Nous lui appartenons et nous devons vivre pour lui. Cette image du rachat nous rappelle aussi que, comme l'esclave vendu sur le marché n'avait pas la possibilité de... ne choisissait pas lui-même. En ce qui nous concerne, c'est le Christ qui nous a choisis. Nous avons joué notre rôle en l'acceptant, n'est-ce pas? Mais la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui nous a choisis. Et c'est lui qui nous a rachetés sans que nous y soyons pour rien. Au moment où nous étions sous l'esclavage d'un autre maître, le monde et le mal, le Christ a donné sa vie sur la croix. Il nous a rachetés au prix de son sang qu'il a versé pour payer le prix de notre condamnation, son sang précieux. Et il n'a pas demandé notre avis, il l'a fait par amour. Il l'a fait par amour pour chacun de nous. L'apôtre Paul écrit dans sa lettre à Tite, au chapitre 3, verset 5, je cite, que s'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste, non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Et il rajoute ceci, cet Esprit, il l'a répandu avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Par qui ? Par Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à ce moment-là que nous sommes devenus donc le temple du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est venu faire habitation en nous. La parole de Dieu nous exhorte à nous laisser remplir continuellement par son Esprit, à ne pas éteindre le Saint-Esprit qui est déjà en nous, à le laisser investir toutes les pièces de cette maison, de notre maison, de notre vie. Même peut-être les plus... Peut-être non, j'enlève le peut-être, même les plus secrètes, n'est-ce pas? C'est alors que nous serons remplis de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, et que notre vie sera véritablement un temple, une adoration, une vie qui honore Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, donc honorez Dieu dans votre corps. Ah, pas simplement dans mon esprit? Non, dans votre corps, l'être tout entier. Notre Maître nous a rendus libres et il nous rend capables de préserver cette liberté que nous avons en Christ. Cette liberté précieuse que nous avons en Jésus-Christ. Et cela pour ne pas nous mettre sous le joug d'un autre esclavage, n'est-ce pas? Parce que des esclavages, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Un autre esclavage qui nous conduira à la mort, car le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la Bible. Alors, il nous faudrait maintenant lire le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Je ne sais pas si on peut rester là la journée pour continuer encore. Non, on va s'arrêter là aujourd'hui. Vous allez lire encore ce chapitre à la maison, chapitre 8, l'Épître aux Romains, pour voir ce que c'est que cette vie de l'Esprit. Et l'apôtre Paul, dans ce chapitre, nous dit des choses formidables. Certains pensent que c'est toujours de l'extraordinaire, du surnaturel, mais lisons des choses terre à terre pour voir ce que c'est que cette vie de l'Esprit. Chapitre 8 de l'Épître aux Romains, lisez-la à la maison. Mais permettez-moi de citer au moins le verset 5 où il dit « Ceux qui vivent selon l'Esprit, tende vers ce qui est conforme à l'esprit. Et je ne vais quand même pas terminer cette prédication sur le Saint-Esprit sans parler du fruit de l'esprit. Au moins citer ce verset. Le fruit, Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Oula ! Le Saint-Esprit a du boulot, n'est-ce pas, dans nos vies. Hein. Déjà, et apparemment, c'est un seul fruit. Hein. Si nous laissons le Saint-Esprit remplir notre vie, il nous rendra capables de porter ce fruit magnifique de l'Esprit et notre vie honorera Dieu, non seulement en esprit, mais aussi dans notre corps. Notre vie entière honorera le Seigneur. Notre corps est le temple du Saint-Esprit qui nous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en nous. C'est une affirmation, ce n'est pas une question. Il demeure en nous. Nous ne nous appartenons donc pas à nous-mêmes, c'est une affirmation. Car nous avons été rachetés à grand prix. Quelle grande affirmation! Honorons donc Dieu dans nos corps. Amen.